Voilà. Bonjour à chacun. Effectivement, là, je prends la parole pour poursuivre notre étude de l'Évangile selon Luc. Et je vous invite, voilà, à ouvrir vos Bibles dans cet Évangile. À partir du chapitre 9, on va lire du verset 37 au verset 50. Donc, la semaine dernière, on avait lu le récit de la Transfiguration, dans lequel Jésus se révèle davantage à ses disciples pour les équiper face aux temps difficiles, face à ces moments qu'il leur avait annoncé de devoir renoncer aussi à plusieurs choses pour le suivre, en leur parlant du coût pour être disciple. Et le texte que nous allons lire maintenant donc suit directement cette transfiguration. Donc, je vous invite à lire Luc au chapitre 9 et nous lisons à partir du verset 37. Le lendemain, comme il descendait de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Du milieu de cette foule, un homme s'écria: Maître, je t'en supplie, regarde mon fils, c'est mon enfant unique. Un esprit s'empare de lui, le fait crier tout à coup, l'agite convulsivement et le fait baver. Il ne le quitte que difficilement en le laissant tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas réussi. Hop, pardon, je. Jésus répondit: Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et le fit entrer en convulsion. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples: Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit: Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui dit: Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Donc, ce n'est pas la première fois dans ce récit que Luc nous relate la confrontation de Jésus-Christ avec un démon ou un esprit impur. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Il y a eu ce moment lors de la tentation dans le désert où Jésus a été tenté par Satan, ou alors à Capernaum, ou alors avec cet homme qui vivait dans les tombes dans la contrée de Gerasa. Et à chaque reprise, Luc nous a montré que Jésus est clairement victorieux sur Satan et sur ses démons. Il est venu détruire l'œuvre de Satan. Mais ici, nous avons deux choses nouvelles par rapport à ces autres récits. Première chose nouvelle, c'est que les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon. Alors que peu de temps avant, en fait, si on regarde au début du chapitre 9, Jésus a envoyé ses disciples avec l'autorité et la puissance qui sont siennes. Il les a envoyés pour annoncer le royaume de Dieu et chasser les démons. Mais ici, ils n'y arrivent pas, alors qu'avant, ils avaient pu. Première chose étonnante de notre texte. Et deuxième chose que nous avons dans ce texte qui est nouveau, c'est que Jésus se met en colère. Verset 41, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ?» Et donc, on doit se poser cette question, pourquoi cette colère de Jésus-Christ ? Et contre qui est cette colère ? Et pourquoi aussi cette faillite des disciples ? Et finalement, cela doit nous faire réfléchir, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous en tant que disciples aujourd'hui ? Donc, on va reprendre notre texte, faire quelques remarques dessus. Première chose que Luc met clairement en avant, c'est que cette faillite des disciples ne provient pas de Jésus-Christ. Face à leur faillite, Jésus prend la main et encore une fois, il lui suffit d'une menace pour que l'esprit impur sorte immédiatement. Il n'y a pas besoin de faire plein de choses, plein d'incantations, plein de prières, plein de jeûnes, etc. Une menace de la part de Jésus-Christ, l'esprit fait son cinéma, mais l'enfant, lui, est guéri. Donc, très claire affirmation, Jésus reste et demeure tout puissant. Il domine sur tout, même sur les œuvres de destruction de Satan. Alors pourquoi cette faillite des disciples ? Avant de répondre à cette question, on doit aborder cette deuxième nouveauté, c'est contre qui s'adresse la colère de Jésus-Christ ? Et on a deux options ici. Première option, c'est que soit Jésus reproche au père de l'enfant et peut-être à la foule aussi leur incrédulité, c'est-à-dire leur absence de foi ou leur manque de confiance ou leur absence de confiance en Dieu, soit Jésus-Christ fait ce reproche à ses disciples. Et on peut observer dans notre texte qu'en fait le père de l'enfant vient avec foi auprès de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on a au verset 48. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. » Donc le Père vient vers Jésus-Christ avec une attente. Il s'attend à de la compassion de la part de Jésus-Christ. Donc il y a une foi, et foi qui était déjà présente quand ce papa a amené son enfant auprès des disciples. Verset 40, « J'ai prié tes disciples de le chasser. » Donc il est venu clairement avec foi faire sa demande. Il s'attendait à ce qu'un miracle soit fait par les disciples au nom de Jésus-Christ, comme ça s'était passé auparavant. Et maintenant, alors que ses disciples ont failli, ce papa s'attend à ce que Jésus-Christ puisse le faire. Regarde mon fils. Et par rapport à l'ensemble du texte, si le miracle de la délivrance dépend de la foi du Père ou dépend de la foi de la foule, ça ne correspond plus à la compassion de Dieu que Jésus-Christ démontre depuis le début du récit. Il s'agirait plutôt alors d'un salaire ou d'un dû, et non d'une bonté et d'une grâce de la part de Dieu. Cela fait donc plus de sens que Jésus-Christ reproche à ses disciples cette absence de foi. En effet, c'est eux qui n'ont pas pu chasser le démon, alors que Jésus-Christ les avait envoyés avec son autorité et sa puissance pour le faire. Et malheureusement, nous devons constater que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ reproche à ses disciples leur manque de foi. Dans l'évangile de Luc, il y a déjà eu l'épisode de la tempête où, pris de panique, ils ont réveillé Jésus-Christ en disant « Maître, nous mourons !» Et Jésus les avait repris en disant « Où est votre foi ?» Ce sont eux qui ont vu tous les actes miraculeux de Dieu, c'est eux qui ont assisté à toute la compassion de Jésus-Christ avec des miracles impressionnants d'un enfant qui a été ressuscité et redonné à son père, une petite fille ressuscitée, redonnée à ses parents. Et malgré tout, ils en sont toujours au même point. Et à cause de cela, à cause de cette incrédulité que Jésus leur reproche, ils n'ont pas pu servir Jésus-Christ dans la mission qu'il leur avait confiée. Pourquoi ? Quel est l'obstacle à leur foi ? Qu'est-ce qui vient tordre ici leur approche de Dieu et les détourner? Et Luc, suite à ce récit, juxtapose trois autres récits qui mettent en avant l'obstacle à la foi des disciples, qui nous montrent ce qu'il est tort. Et c'est de cela que nous voulons tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Premier élément, dans ce premier récit, versets 44-45, c'est que les disciples ne veulent pas suivre un maître souffrant. Alors que la foule, le peuple est dans l'admiration de ce que Jésus-Christ vient de faire, Jésus réoriente ici ses disciples. Il ne veut pas que ses disciples se laissent emporter par cette gloire et cette notoriété. Il les réoriente avec ces quelques mots. Le Fils de l'homme va être livré. C'est-à-dire qu'il va être mis à mort à Jérusalem, comme il l'avait déjà annoncé. On avait vu cela au verset 22 du même chapitre. Et Luc nous glisse ce commentaire au verset 45. Les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Et on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Clairement, ce n'est pas l'enchaînement des mots qu'ils ne comprenaient pas. Jésus parlait la même langue que ses disciples. L'enchaînement des mots était compréhensible, mais c'est la signification, la portée de ce que Jésus-Christ leur disait qu'ils ne comprenaient pas ici. Et Luc fait encore ce commentaire que cette parole était voilée. Mais elle n'était pas voilée, il me semble, par Jésus-Christ ni par le Saint-Esprit. Effectivement, Jésus vient de leur dire « Laissez cette parole entrer dans vos oreilles », littéralement. Donc, si Jésus leur dit de bien prêter attention, de laisser cette parole entrer dans leurs oreilles, c'est pour qu'ils comprennent et non pas qu'il veut leur cacher quelque chose. Donc, c'est plutôt le problème ici des disciples qui est mis en avant. Et comme à l'époque, comme la foule à l'époque, les disciples attendaient eux aussi un Messie triomphant et victorieux. Ils n'avaient pas de place pour un libérateur qui allait souffrir, pour un Messie qui allait être livré à mort par son peuple. Pour eux, un Messie, un libérateur qui meurt serait une catastrophe, serait une défaite complète, un risque même de retourner en arrière sous une domination étrangère. C'est l'échec complet de l'espérance juive. Et ici, ce qui est terrible dans notre texte, c'est que face à leur incompréhension, Luc nous dit encore qu'ils ont peur de poser des questions à Jésus-Christ. Pourquoi cette peur? Est-ce que Jésus-Christ serait en colère? Est-ce que Jésus a horreur qu'on lui pose des questions, que ses disciples ne comprennent pas et qu'il s'énerve à chaque fois qu'on lui pose des questions? Non, le texte nous montre déjà avec les paraboles que Jésus leur a pris le temps de leur expliquer les choses. Donc les disciples ne comprennent pas et ne posent pas des questions parce que ce que Jésus-Christ est en train de leur dire ne cadre pas avec leur notion d'un libérateur. Ils ne veulent pas d'un libérateur comme Jésus annonce l'être. Ils veulent la gloire et non la mort. Mais sans comprendre que la gloire de Jésus-Christ et celle de son peuple, de ses disciples, passe inexorablement par sa mort. Et par leur refus, les disciples ici s'opposent au type de libérateur que Jésus-Christ veut être. On a un peu l'équivalent de l'opposition que Pierre a eue quand Jésus-Christ s'est révélé, quand Pierre a fait cette déclaration « Tu es le Messie ». Et où il a dit « Non, non, tu ne mourras pas ». Il a voulu empêcher cela. On est un peu face à cette équivalence ici, à ce même type d'opposition au plan de Dieu. Ils ne veulent pas d'un libérateur souffrant, d'un maître à suivre dans la souffrance. Et là, on peut se poser la question, mais quel est le lien avec nous? Parce que nous, on n'est plus dans la même situation, n'est-ce pas? Nous, on sait très bien que Jésus-Christ devait mourir et qu'il est mort et qu'on suit un maître qui a pris le chemin de la souffrance. On n'est plus dans cette situation des disciples. On a accepté qu'on a un maître qui passe par un échec apparent qui a été sa mort. Mais en pratique, est-ce qu'on est toujours d'accord de suivre un maître qui se donne ? Un maître qui est livré, ridiculisé, moqué, abandonné pour la gloire de ceux qu'il aime. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, pardon, d'avoir une réunion, peut-être dans l'église ou une réunion au travail avec des collègues, le patron, etc. Et ça ne s'est pas très bien passé, en fait, ça ne s'est pas bien passé surtout pour nous. Et le soir, de revivre cette réunion dans notre tête ou en se couchant tranquillement, mais de la revivre en prenant une autre position. Tout d'un coup, en fait, on a toutes les bonnes réponses. Tout d'un coup, on sait exactement quoi répondre, comment argumenter quelque part pour écraser celui qui s'oppose à nous, pour casser celui qui nous gêne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors, si vous êtes comme moi, ça vous est déjà arrivé. Et on rêve effectivement de prendre le dessus. Et quand on y réfléchit, quelque part, on agit exactement comme parfois nos grands héros. Moi, j'aime la littérature d'action, les romans d'espionnage. Et mes héros, quelque part, c'est Jason Bourne, n'est-ce pas ? Qui se bat super bien et qui élimine ceux qui s'opposent à lui. Ou parfois, pour d'autres, dans les films romantiques, le héros, c'est ce pauvre conjoint qui a été... a pas bien compris, qui n'est pas bien dans son couple et qui, dans un voyage, découvre quelqu'un d'autre d'extraordinaire et qui abandonne son foyer, ses enfants pour être bien, être heureux. Et le film finit bien, ils sont heureux, tout va bien à nouveau. Ou peut-être notre héros, c'est quelqu'un d'autre comme Christina Cordula qui s'habille super bien, qui nous permet d'être à la mode, vue et comme ça de mettre des notes à ceux qui ne sont pas autant magnifiques qu'elle. Ou que nous. Quelque part, nos héros vont toujours au-dessus. Et ce ne sont pas des héros qui s'abaissent. Ce sont des héros qui écrasent, qui prennent le dessus, et pas des héros qui mettent les autres en avant. Et nous devons reconnaître que nous aussi, bien souvent, on est dans ce cas-là. On préfère être au-dessus et non au-dessous. On est d'accord que Jésus-Christ se donne pour nous, mais on a du mal à accepter de le suivre dans ce chemin-là. On a du mal à accepter de se donner nous pour le bien des autres. On a du mal à renoncer à notre gloire. Et c'est le problème des disciples ici. Deuxième récit, les disciples sont plus préoccupés par leur chemin de gloire que par le chemin d'humilité de Jésus-Christ. Et effectivement, Luc poursuit là ce récit en nous parlant du souci des disciples. Et alors que Jésus vient de leur annoncer qu'il allait être livré, qu'il allait mourir, eux, ils se soucient de savoir qui est le plus grand. Voilà cette discussion hautement importante pour eux. Si vous suivez un peu comme moi les élections qui se passent en France ou parfois aux USA, il y a rapidement la question qui vient, qui est de savoir qui aura les postes clés au gouvernement. Si telle personne est élue ou quand il vient d'élu, comment il va former son gouvernement, qui aura les postes clés à son gouvernement, à ses côtés. Et on ne cherche pas la personne la plus qualifiée du pays. En général, on cherche qui est la personne la plus proche de ce candidat. Autrement dit, on regarde qui est son meilleur assistant, qui est celui qui le sert le mieux, qui est celui qui l'a côtoyé pendant de longues années, et on sait qu'en général, c'est lui qui va avoir les postes clés. Ça a toujours été comme ça avec les rois à l'époque, avec les empereurs à l'époque, avec les chefs, et même encore avec nos présidents. Et ici, les disciples sont dans la même logique. Qui est le meilleur ? Autrement dit, eux qui espèrent un roi guerrier, un libérateur politique, ils rêvent du poste clé que eux vont pouvoir obtenir. Ils sont trop préoccupés par la gloire qu'ils auront plutôt que d'écouter Jésus-Christ. Le texte n'en parle pas, mais on sait très bien que ce genre de recherche malsaine conduit en général à des tensions et détruit les relations. Alors, ils n'écoutent pas Jésus-Christ et ils deviennent ainsi inaptes à servir Jésus-Christ, à accomplir sa mission. Jésus-Christ doit ici les reprendre. Et il le reprend en mettant un enfant au milieu de eux. Le rapport à l'enfant à l'époque n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants, on les appelle un peu des petits chérubins, nos petits canards en sucre, ce genre de choses, selon l'expression que vous avez. Et ils occupent une grande place dans la vie de la famille. Parfois un petit peu trop d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre question. Mais à l'époque, dans une société qui connaît un fort taux de mortalité infantile et qui a un grand besoin de main-d'œuvre dans les champs, en fait, les enfants n'occupent pas vraiment la même place. Le Talmud nous rapporte que, en fait, pour un érudit, pour un homme de science, consacrer du temps à un enfant est une perte de temps. Sympathique, n'est-ce pas ? Même un rabbin de l'époque nous dit ceci, dormir le matin, boire du vin au milieu de la journée, discuter avec un enfant, détruit un homme. Il met au même niveau que la flemmardise du matin, que de boire de l'alcool et discuter avec un enfant. Voilà ce qui détruit un homme. Donc on voit clairement qu'un enfant n'avait pas de valeur tant qu'il n'était pas hors du risque quelque part de la mortalité infantile et tant qu'il n'était pas une force ouvrière. Et en prenant cet enfant à ses côtés, en prenant cet être humain de peu de valeur, Jésus n'appelle pas à avoir une foi ici comme celle d'un enfant, mais il appelle ses disciples à arrêter de discourir sur leur grande valeur à eux pour s'abaisser plutôt vers ceux qu'on dénigre. La grande valeur que Jésus recherche auprès de ses serviteurs, c'est de s'humilier. C'est d'avoir assez d'humilité pour s'abaisser et pour servir, à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est abaissé vers nous pour nous sauver. Il a abandonné sa gloire pour notre bien et nous demande de le suivre dans ce chemin. Voilà la grande valeur attestée dans les propos de Jésus-Christ. Voilà la grande valeur de son serviteur qu'il désire. Et en faisant cela, il nous promet l'honneur suprême. Accueillir un enfant, accueillir ceux qu'on dénigre, accueillir ceux que notre société ne considère pas en son nom, c'est accueillir Jésus-Christ lui-même et le Père. Donc on est très loin de la réflexion des podiums et des star systems, mais voilà la logique de Dieu, voilà comment être utile à son service. Et troisième récit, verset 49-50, où on voit que les disciples sont plus préoccupés par leur gloire que par celle de Jésus-Christ. C'est à cause de cela aussi, donc avec ces trois éléments, ils ne veulent pas suivre un maître souffrant, ils sont plus préoccupés par leur chemin de gloire que par le chemin d'humilité, et ils veulent plus leur gloire que celle de Jésus. Tout cela les rend inefficaces et détruit leur foi. Et on voit cela par cette réponse de Jean. Effectivement, il prit la parole ou il répondit face aux propos de Jésus-Christ. Donc, vraiment, il y a un lien entre ces textes où on voit que les disciples, ce n'est pas seulement Jean, sont perturbés. Eux, ils n'ont pas réussi à chasser un démon, et il y a quelqu'un d'autre qui a réussi. Et ils disent, voilà, on l'a interdit, et voilà pourquoi on l'a interdit, on l'a empêché, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jean et les autres disciples, en fait, défendent leur position de disciple du cercle intime de Jésus-Christ. Il n'est pas avec nous. Et quelque part, là, les disciples développent une forme de sectarisme ou d'exclusivisme. Pour eux, il faut faire partie de leur groupe pour faire du bien. Il faut faire partie de leur groupe pour agir au nom de Jésus-Christ. Et si on n'est pas dans leur groupe, alors on ne peut rien faire. Leur groupe devient plus important que la gloire et la puissance de Jésus-Christ dont témoigne cet homme. Est-ce que ça pourrait nous arriver en tant que croyants que de rechercher plus la gloire, peut-être la gloire de notre Église ou notre gloire personnelle, plus que de rechercher la gloire de Jésus-Christ? Est-ce qu'il se pourrait parfois dans nos discussions entre pasteurs, parfois on se pose la question, mais il y a combien de personnes dans ton Église? Et on se compare au nombre de personnes comme si c'était ceux-là qui étaient vraiment importants. Ou parfois dans nos églises, il y a combien de jeunes dans ton église? Ou c'est quoi le programme de tes activités? Ou comment sont tes bâtiments? Et au final, on est plus en train de rechercher notre gloire, la gloire de notre église, la gloire de notre personne, plutôt que de rechercher la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas le grand nombre qui compte, c'est de s'orienter vers Jésus-Christ, de célébrer Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tous les âges sont représentés qui compte, mais c'est avec ceux qu'on est, en grand ou en petit nombre, mais d'être unis ensemble pour célébrer Jésus-Christ. Ce n'est pas le nombre de nos activités, ce n'est pas la beauté de nos bâtiments qui compte, mais c'est là où on est, avec les activités qu'on a, mais ce n'est pas l'activité qui compte, mais c'est au travers de cela, célébrer, se réjouir en Jésus-Christ et l'annoncer. Mais la recherche personnelle de gloire, ici exclue, empêche de servir Jésus-Christ qui est venu chercher notre prochain. J'ai regardé dernièrement ce film, Le Banquier, avec Samuel L. Jackson et Anthony Mackie. Film qui s'inspire d'une histoire vraie. Alors, il y a pas mal de discussions en ce moment sur les réseaux sociaux parce que voilà, il y a certains éléments qui sont contestés, mais ça dit bien, ça s'inspire d'une histoire vraie. Et cette histoire, en fait, c'est que dans ce temps où il y avait quand même encore la ségrégation aux États-Unis, les Noirs n'avaient pas accès vraiment aux banques, aux emprunts, et donc ils restaient un peu confinés dans leur coin et dans une certaine pauvreté. Et un Noir a eu l'idée assez ingénieuse de monter un système où, pour contrôler une banque, pour acheter une banque en fait, il a employé un Blanc et il l'a mis devant lui. C'est-à-dire que c'était le Blanc qui le représentait et lui, il se déguisait plutôt en chauffeur où il était à l'arrière en train de donner les instructions pour que son financement puisse avoir lieu. Et ça a marché pendant un certain temps. Ils ont pu acheter des bâtiments, ils ont pu acheter une banque, ils ont pu ainsi accorder des emprunts à la communauté noire du Texas. Mais au bout d'un moment, ce Blanc qui était devant a voulu commencer à voler de ses propres ailes. Il a voulu lui aussi sa propre banque, être le propre président, le propre directeur. Il a voulu sa propre gloire. Mais malheureusement, il n'avait pas toutes les connaissances, il ne savait pas vraiment bien gérer la barque. Et à cause de cela, ils se sont fait prendre. Il y a eu procès qui a conduit à la prison et à la perte des biens. Et donc, ils ont pu continuer à faire le bien auprès de la communauté noire. On a recherché notre propre gloire. Et malheureusement, cette propre gloire a conduit à la destruction. Destruction du bienfait à la communauté noire. Et si on regarde ce qui se passe dans l'humanité, dans l'Allemagne nazie, on a voulu la gloire de notre peuple, on a voulu conquérir notre espace vital et on a détruit une partie de l'humanité. Il n'y a pas que dans l'Allemagne nazie, toutes les guerres, c'est cette recherche de gloire personnelle d'un homme ou d'un clan et on détruit l'humanité. Il n'y a pas longtemps, il y a une collègue de Claire qui a dit dans une réunion de travail, « Mon travail passe avant mon mari. » Recherche personnelle de gloire dans le travail qui détruit le couple. Et ça peut être parfois la même chose dans la famille, où face aux tensions, on monte, il y a une escalade, personne ne veut lâcher, tout le monde veut dominer et être au-dessus, alors on provoque et on pousse au bout. Et on détruit la famille pour cette recherche de gloire personnelle. Chacun veut être au-dessus et ne pas servir. Dans tous les domaines, la recherche de gloire personnelle détruit les relations humaines. Et au final, nous détruit nous-mêmes. Mais avant tout, et nous éloigne de Dieu. Que faire? Quelle solution face à cette faillite, face à ce problème? Jésus répond ici au verset 44. Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Pour vous, donc pour vous, mes disciples, écoutez, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Jésus affirme clairement qu'il va être livré. Alors, dans un premier temps, c'est vrai, cela signifie qu'il va être trahi par un de ses disciples, par Judas. Puis après, il va être lâché par son peuple et les chefs de son propre peuple qu'il est venu sauver vont le livrer aux Romains pour qu'il soit mis à mort par crucifixion. Mais ultimement, quand on suit le récit, cela signifie que Jésus-Christ est livré par son Père. C'est Dieu qui donne Jésus-Christ. Autrement dit, la mort de Jésus-Christ n'est pas un accident. Elle est un sacrifice. Un sacrifice que Dieu donne. Un sacrifice que Jésus-Christ accepte pleinement, volontairement. Il n'est pas un jouet dans les mains de Dieu. Un sacrifice que Dieu donne à cause de notre recherche de gloire personnelle, qui nous a séparés de lui, qui a détruit cette relation que lui voulait établir avec nous à la création. Et cette recherche de gloire dont on a pu souffrir, ou on a pu faire souffrir d'autres, nous a détruits, nous a éloignés de Dieu. Et Jésus affirme ici, il est livré, il se livre volontairement pour prendre sur lui la colère que méritent nos actes de destruction. Cette colère que mérite notre recherche de gloire qui a détruit tant de choses autour de nous pour nous conduire à la reconstruction, avec lui premièrement et avec les autres hommes en deuxième lieu. Et encore aujourd'hui, comme l'a dit Uli, son sacrifice est valable et cet appel reste valable pour chacun d'entre nous. Et pour cela, il nous suffit de renoncer à cette gloire personnelle, prenant conscience qu'il y a eu tellement de destruction autour de nous à cause de cela, demandant pardon, venant dans la repentance, comme nous a dit Daniel, pour le mal fait, et inviter Jésus-Christ à être ce libérateur dans notre vie. Et Jésus affirme aussi à ses disciples, littéralement, laissez cette parole entrer dans votre oreille. Laissez cette parole entrer dans votre oreille. En tant que disciple, comme les disciples à l'époque, on est nous aussi encore tentés par cette recherche de gloire personnelle dans nos familles, dans nos couples, au travail, dans l'Église et partout, n'est-ce pas? Sans toujours bien considérer les conséquences de destruction que cela entraîne. Et pour ne pas nous laisser entraîner par elle, pour ne pas nous laisser entraîner par cette admiration, cette gloire, comme les disciples, Jésus dit qu'il faut, c'est un impératif, hein, laisser constamment cette parole entrer dans nos oreilles. Un devoir quelque part du disciple pour rester efficace, pour rester proche de Jésus-Christ, pour rester utile dans sa main, à son service, il nous faut volontairement, consciemment, intentionnellement rechercher cette parole, pour demeurer sur cette voie, pour rester utile, afin de laisser Jésus-Christ détruire les œuvres de Satan et construire nous aussi la réconciliation dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, au travail, dans l'Église et partout, là où Dieu nous place. Laissez cette parole, lui doit être livré. Le chemin du disciple suit le chemin du maître, celle de renoncer à notre propre gloire pour rechercher la gloire du maître. Avec ce constat, Jésus-Christ a accepté de quitter la gloire céleste pour venir nous chercher. Et en nous cherchant, en mourant, en passant par la croix, il nous entraîne à sa suite dans la gloire céleste à nouveau. Autrement dit, notre gloire qu'on espère tant est une bonne chose. Vouloir cette gloire est bien, mais cette gloire qui est bonne pour nous et la gloire qui passe par la croix. C'est seulement la gloire dans laquelle Jésus-Christ nous entraîne, et pas cette gloire qu'on ravit et qu'on vole. C'est cette gloire que Jésus-Christ a pris, de renoncer à soi pour laisser Dieu nous glorifier. Et c'est là uniquement qu'on va entrer dans une gloire qui est bonne pour nous, c'est vrai, mais qui est bonne pour chacun de ceux qui nous entourent. À cause de cela, il nous faut laisser cette parole entrer dans notre œil. Comme lui, il doit être livré. Et c'est ce maître-là qu'on va suivre. Recherchons sa parole. Demandons pardon constamment à Dieu pour toutes les fois où on n'a pas laissé son instruction pénétrer en nous. Parce qu'on a voulu rechercher notre propre gloire. Et prenons plaisir en son instruction. Prenons plaisir dans cet enseignement, dans cette parole qu'il veut nous donner, de toujours mieux le connaître et ainsi le suivre dans cette vie de disciple, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée et avoir une foi en lui qui n'est pas défaillante, comme ça a été le cas de nos disciples, qui ont voulu regarder qu'à eux-mêmes. Mais avoir une foi utile, serviable, pour notre maître, pour notre bien et celui de ceux qui nous entourent. Je vous invite à prier.